Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de cette édition d'information, la situation reste tendue ce vendredi après des affrontements hier entre les combattants Wazalendo et les rebelles du M23 sur l'axe Pingapeti en territoire de Walikale et au Nord Kivu. Des sources militaires confirment la réoccupation des Peti par l'armée congolaise. Au sud Kivu, toujours pas d'application du régime du commerce simplifié à la frontière congolo-burundaise. Les commerçants transfrontaliers déplorent le retard du côté congolais dans la mise en œuvre de cette mesure qui vise à leur alléger les charges fiscales. Notre invité est le recteur de l'Université de Kalemie. Le professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala fait un état des lieux de son institution qui totalise 20 ans d'existence cette année. Vous allez l'entendre dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal part du Nord Kivu. La situation reste tendue ce vendredi sur l'axe Pingapeti, en territoire de Walikale. Les combats opposent l'armée congolaise et les combattants VDP Wazalendo aux rebelles M23 ont repris hier jeudi dans la zone. Certaines sources militaires parlent de la réoccupation des Peti par l'armée congolaise. Par ailleurs, un civil a été tué et 3 autres blessés lors d'autres affrontements hier jeudi près de Kibumba, dans les Niragongo. Bernard Nyangi.
Les FARDC et les combattants Wazalendo contrôlent à nouveau l'agglomération de Peti à une dizaine de kilomètres de Pinga, affirment certaines sources militaires à Walikale. C'était dans la soirée hier jeudi, à l'issue des violents combats qui y ont repris dans la mi-journée. Toutefois, des sources civiles affirment que la situation reste très tendue et volatile dans cette zone où les rebelles M23, qui sont toujours en Ndjenge, se regardent en chien de faïence avec les FARDC et leurs alliés locaux. Jusque ce matin vendredi, quelques tirs sporadiques s'y faisaient encore entendre, disaient ces sources. Par ailleurs, en territoire de Niragongo, certains notables locaux dressent le bilan d'un civil tué et de 3 autres blessés à l'issue des affrontements ayant opposé dans la matinée hier jeudi les rebelles M23 au FARDC et Wazalendo dans l'ouest de Kibumba. Ces civils faisaient la cueillette des bois de chauffe dans le parc quand ils ont été surpris par ce combat autour de 7 heures locales. Sur leur compte X, des sources rebelles M23 nient leur participation dans ce combat. Elles disent qu'ils auraient opposé certains éléments FARDC à quelques combattants Wazalendo à la suite d'un désaccord présumé sur la gestion des barrières illégales dans cette zone du parc. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Toutefois, les deux chambres du Parlement ont autorisé hier jeudi la 85e prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Si l'Assemblée nationale a voté pour cette prorogation sans débat, le Sénat a quant à lui engagé un débat houleux avant toute prorogation. Il ressort de ces débats que l'état de siège n'est pas en mesure de restaurer la paix dans cette partie du pays. Et c'est à cette occasion que le vice-ministre de la Justice a rassuré le parlementaire que sur un du président de la République, le gouvernement amorcera l'évaluation de l'état de siège dès la fin de ce mois de novembre. Michel Kifindangoy.
Prenant la parole au perchoir des deux chambres du Parlement, le vice-ministre de la Justice souligne la nécessité d'une nouvelle prorogation de l'état de siège. Samuel Mbemba annonce notamment l'évaluation de l'état de siège d'ici la fin de ce mois de novembre par l'exécutif national, mais aussi l'envoi d'une mission gouvernementale associant les élus nationaux dans les deux provinces autour du 21 novembre. Favorable pour l'évaluation de l'état de siège, le président de l'Assemblée nationale exige que ses assises se tiennent au Parlement. Vital Kamere.
L'évaluation à la fin du mois, oui, mais ici à l'Assemblée nationale, la représentation du peuple, la première ministre sera à l'aise avec son gouvernement. Ensemble, nous allons évaluer l'état de siège en toute transparence et nous allons atterrir. Et ça va rendre même inutile l'évaluation de l'Assemblée elle-même. Voilà, nous ferions à ce moment-là d'une pierre deux coups.
Après l'étape de l'Assemblée nationale, le Sénat a aussi autorisé la prorogation de l'état de siège juste après l'adoption de son calendrier des matières de la session de septembre.
En province du Maniema, la situation sécuritaire dans le territoire de Kasongo reste volatile. Déclaration du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité suite à la mort d'un jeune tué le mardi dernier par un groupe de miliciens appartenant au major Kiwi à Makangila, secteur de Moulou, territoire de Kasongo. Maître Lawa Moselemani Taylor confirme qu'une équipe est déjà là sur terrain ensemble avec les députés de ce territoire pour le rétablissement de la paix. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
À Kasongo, ces derniers temps, la situation sécuritaire est volatile. Le jeune qui s'appelle Wazalendo, entre parenthèses, s'autorise de venir s'installer dans les grands centres. Lors de leur passage, ils osent même procéder à des arrestations, ils cherchent à trancher certains litiges. Comme vous l'avez appris, il y a eu un cas de meurtre au niveau de Makangila, où le même Wazalendo, qui serait dirigé par Kiwis, aurait tué un garçon. Des enquêtes sont en cours, même à Mouloula, c'est pas seulement Kiwis. C'est chaque village où on s'est créé un chef de milice à la population de Kasongo que le gouvernement provincial qui dirige son excellence Moussa Kabankoub Moïse est compatissant avec cette population. Donc, s'il y a nos frères ou nos sœurs qui collaborent avec ces miliciens qui font incursion dans la cité de Kasongo, c'est l'occasion de se désolidariser. Parce qu'un Mouzalendo, c'est pas quelqu'un qui doit commencer à torturer les gens, doit violer. Pour nous, au stade actuel, ceux qui posent des actes là, on les considère comme étant des bandits qui doivent être traqués et l'État va s'occuper jusqu'à leur dernier retranchement.
Rendons-nous au Maïndombe, où l'armée alerte sur la présence des hommes armés autres que les miliciens Mobondo, créant l'insécurité dans le territoire des Kwamout. Il s'agit des partisans des deux chefs coutumiers qui se disputent les pouvoirs au village Kimangounou, à quelques kilomètres de la RN17. Les porte-parole de la 11e région militaire pensent que c'est peut-être le début d'un nouveau conflit coutumier dans ces territoires. Le capitaine Anthony Mwalouchai appelle les autorités en charge des affaires coutumières à régler la question pour garantir la paix dans cette partie du pays déjà en proie à l'insécurité. Il est au micro de Irène Bomaluzolo.
La situation sécuritaire dans l'ensemble de la 11e région militaire évolue très bien. Nous sommes en train de traquer les rebelles de Mobondo sur l'ensemble du Grand Bandundu. Mais le souci reste dans le territoire de Kwamout. Pas plus tard qu'il y a 48 heures, il y a eu l'insécurité. Mais cette fois-ci, l'insécurité a été orchestrée par les hommes armés, mais qui ne sont pas des Mobondo. Après vérification de nos services de renseignement sur terrain, nous avons compris qu'au-delà de l'insécurité par ces insurgés, mais il y a aussi d'autres problèmes, des conflits entre les deux chefs coutumiers qui se disputent les pouvoirs. C'est ce qui a occasionné les affrontements des partisans de deux chefs qui sont allés brûler et aussi s'attaquer à une famille de l'un des chefs en conflit. Nous avons pris des dispositions pour que cela ne se reproduise pas et nous demandons également aux autorités qui s'occupent de la question du pouvoir coutumier de mettre en place des mécanismes pour trouver une solution durable.
Autre nouvelle, le vice-premier ministre congolais, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, et son homologue zambien, Ambroise Luigi Lufuma, ont signé conjointement jeudi à Kitwe, en Zambie, les communiqués officiels sur l'adoption des résolutions élaborées par les experts des deux pays à l'issue de la 13e session de la Commission mixte Défense et Sécurité, RDC Zambie. Bien avant cette réunion ministérielle, ces experts ont évalué les mesures préventives qui ont été prises pour mettre fin aux incidents constatés le long de la frontière commune. Ces travaux qui ont débuté lundi visent à promouvoir les relations de bon voisinage entre la RDC et la Zambie, notamment en matière de lutte contre la criminalité frontalière. On écoute Jacquemain Chabani dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
Dans mon allocution d'ouverture, j'ai souligné que l'évaluation des recommandations devrait se faire sans complaisance et je m'en suis rassuré. Pour ce faire, un suivi rigoureux est nécessaire pour que la coopération franche recherchée par nos États devienne une réalité. C'est pourquoi de mon côté, j'instruis le secrétariat permanent Défense et Sécurité de mon ministère de faire ce suivi strict de toutes les résolutions et de me faire rapport chaque semestre. Cela en vue de privilégier la coexistence entre nos populations. Pour ma part, je me chargerai de rendre compte au chef de l'État et à la chef du gouvernement de mon pays des résolutions auxquelles nous sommes parvenus en vue de leur effectivité. C'est pourquoi j'exhorte les experts de nos deux États à ne ménager aucun effort en organisant régulièrement des rencontres et des concertations en vue de consolider davantage les acquis des présentes assises.
Les régimes du commerce simplifié RECOS, récemment annoncés à la frontière congolo-burundaise par le ministre des Commerces extérieurs Julien Paluku, n'est pas toujours suivi d'effet. Du côté congolais, les opérateurs économiques déclarent qu'ils font face au statu quo, pendant que des avancées significatives sont observées de l'autre côté de la frontière burundaise. Pourquoi cette mesure qui vise à alléger les charges fiscales aux petits commerçants transfrontaliers tarde-t-elle à s'appliquer? Zembe, opérateur économique et vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, Antenne d'Ouvira, au micro de Jean Kassami.
Par rapport au projet RECOS, ce n'est pas encore d'application ici chez nous. Au niveau des frontières, on est en train d'attendre qu'il soit officiellement notifié. On n'a que publié les 60 articles concernés par les projets RECOS. L'obligation était de les afficher aux frontières afin que quand vous veniez, vous vous retrouviez si vous êtes dans les critères. Mais jusqu'à présent, il y a encore des tracasseries, des contradictions entre les opérateurs économiques, les services de taxation à la frontière, parce qu'ils ne se sont pas encore mis d'accord sur ce qui sera exonéré. Et il y a certains qui pensent que tomate signifie même tomate en boîte, pendant que les produits manufacturés ne sont pas concernés par les projets RECOS, ce sont les produits bio. Alors c'est ça la difficulté qu'il y a encore ici à Ouvira. Donc l'autorité n'a pas encore saisi officiellement les services de taxation à la frontière et on n'a pas encore affiché, parce qu'on peut le saisir, mais si ce n'est pas encore affiché aux frontières, l'opérateur économique ne saura pas comment réclamer s'il n'a pas vraiment de visibilité palpable.
Plusieurs opérateurs économiques de la province du Sud Kivu sont dubitatifs quant aux avantages attendus du régime des commerces simplifiés. Ils justifient leurs doutes par le fait que les RECOS ne reprend presque rien des articles congolais. À l'approche des festivités de fin d'année, le gouvernement dit veiller sur les prix de biens, les taux d'échange et l'exécution des dépenses publiques. La réunion stratégique du comité des conjonctures économiques, réunie mercredi à la primature, a tablé sur les points essentiels au bon fonctionnement de l'économie du pays. Il s'agit notamment de la question relative à la surveillance des marchés d'échange et des biens et services, les niveaux d'exécution de la dépense publique et la mobilisation des recettes, ainsi que la collaboration entre le ministère de l'Économie et l'Inspection générale des Finances, IGF, pour la baisse des prix des denrées alimentaires importées. Jocelyne Moussa-Opondé nous donne des détails.
Le gouvernement note une stabilité des prix dans les différents marchés et la maîtrise du taux d'inflation. Écoutez à ce sujet Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale.
La stabilité qui s'est installée sur ces différents marchés se confirme semaine après semaine. Le niveau de prix est relativement stable, le taux d'inflation est maîtrisé.
Pour maintenir stable les prix sur les marchés, le gouvernement veille minutieusement à la bonne exécution des dépenses publiques ainsi que la mobilisation des recettes. Et c'est par ailleurs fixé l'objectif de garder un niveau tolérable des dépenses en urgence en cette fin de l'année, a ajouté Daniel Moukoko Samba. Pour sa part, la première ministre a chargé le ministre de l'économie et l'inspecteur général des finances à collaborer pour faciliter la baisse des prix des denrées alimentaires importées. Notons que le ministère de l'économie nationale va amorcer les contrôles économiques comme bouclier contre la spéculation et protecteur des droits des consommateurs. Ces équipes de contrôle déployés sur terrain vérifieront les pratiques commerciales, la transparence, le respect de la réglementation en matière de prix et le respect de règles de concurrence. Chaque entreprise ou commerçant est appelé à afficher clairement les prix de ses produits et services.
Dans le territoire de Beni, les cours n'ont toujours pas repris dans les 4 écoles de Massala, une localité du groupement des Basso-Amadioué, située à environ 60 km à l'ouest de la ville de Beni. En cause, depuis 5 mois, la population a vidé les milieux à la suite d'une attaque de rebelles des EDF qui avait fait plus de 60 victimes. La société civile locale plaide pour un renforcement de mesures sécuritaires dans la région afin de garantir la protection des habitants qui commencent à y revenir. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Depuis l'attaque sanglante du 7 juin dernier, qui avait fait plus de 60 morts parmi les civils, Masala est désertée par ses habitants. Les 4 écoles de la localité restent fermées et les cours sont envahis par les herbes. Bien que la vie reprenne lentement dans cette région, la population qui commence à y retourner vit la peur au ventre. La misère s'ajoute à la souffrance, car beaucoup ont tout perdu du passage des rebelles, précise le président de la société civile du groupement de Bassoa Madio, Jesté Palou Kavalami. Ce dernier ajoute que les enseignants et les élèves ont été déplacés à Katine, une localité située à 17 km de Masala. Jesté Palou Kavalami mentionne également que l'eau potable manque dans cette zone, tout comme une structure sanitaire, l'unique dispensaire ayant été incendié par les rebelles. C'est pourquoi la société civile, tout en saluant la présence des forces conjointes FRDC et UPDF dans la région, appelle les autorités à renforcer les mesures de sécurité pour protéger les populations qui retournent chez elles. Elle plaide aussi pour la reconstruction des infrastructures scolaires détruites à Masala. Il est important de souligner que cette localité est l'un des greniers du territoire de Beni où l'on produit en grande quantité du manioc, du paddy, des haricots et de l'huile de palme. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À Gaza, une école gérée par les Nations Unies, transformée en refuge pour personnes déplacées, a été attaquée par une frappe israélienne. Au moins 14 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées. L'armée israélienne a déclaré que les bâtiments situés dans les camps de réfugiés de Shati, à l'ouest de la ville de Gaza, étaient utilisés par les Hamas pour planifier et exécuter des attaques contre Israël.
L'invité.
Notre invité est le professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala, recteur de l'Université de Kalemie. Dans un entretien avec Paulin Munanga, il fait un état des lieux de son institution qui totalise 20 ans d'existence cette année.
Monsieur le recteur Victor Kalunga Chikala, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Au fil des années, l'UNICAL a évolué et s'est vraiment métamorphosé. Pouvez-vous nous parler de cette évolution en quelques mots?
L'Université de Kalemie, UNICAL en sigle, c'est la première et la plus grande institution académique de la province du Tanganyika. Elle a été créée et a existé pendant un certain temps comme étant une extension de l'Université de Lubumbashi, qui est la maison mère.
C'était en quelle année?
En 2004, ce qui fait que cette année, l'UNICAL est âgée de 20 ans, c'est le jubilé de porcelaine. Beaucoup d'efforts ont été faits et depuis 2010, elle est devenue autonome comme université publique à part entière. Alors, beaucoup de choses ont changé, mais ici, il faut présenter un petit tableau de l'Université de Kalemie. Elle organise 8 domaines d'enseignement. Actuellement, notre effectif varie autour de 2500 étudiants. Nous avons 11 professeurs en propre à l'Université de Kalemie. Nous avons 31 chefs de travaux, 105 assistants, dont 5 sont en formation doctorale à l'étranger et 56 sont en formation doctorale ici au pays.
Et comment organisez-vous la faculté de médecine qui exige certains préalables?
Oui, la faculté de médecine de l'Université de Kalemie a quand même une petite histoire. En ses débuts, c'était un peu comme partout au pays, des facs de médecine ont été ouvertes partout. Et ensuite, une enquête de viabilité avait été menée sous l'administration du ministre, du professeur, au docteur Machako Mamba. La fac avait été fermée et quelques années après, on a fait une étude, on l'a réouverte parce qu'elle présentait un profil assez supérieur à celui des autres qui existaient au pays. Mais il y a 2 ans, lorsqu'une nouvelle enquête a été faite, cette faculté a été placée sous la tutelle de celle de l'Université de Lubumbashi, donc elle n'a pas été fermée. Des efforts ont été déployés pour essayer de relever le niveau. J'ai écrit à son Excellence Monsieur le ministre de l'ESU qui m'a autorisé de recruter des enseignants spécialistes. J'en ai recruté des spécialistes et des professeurs docteurs à thèse en médecine. Et c'est ainsi que nous fonctionnons. Nous venions de recevoir il y a quelques temps une mission de contrôle de viabilité dirigée par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Elle était ici la semaine passée. Les termes de référence de ce contrôle nous avaient été partagés bien avant. La mission a fait son travail et nous sommes très optimistes que nous remplissons toutes les conditions requises pour former comme il se doit les médecins.
Oui, monsieur le recteur, l'Université de Kalemie fait face à un problème de manque de professeurs. Comment vous palliez à cette situation?
Le manque de professeurs, c'est un problème qui est commun à toutes les universités, y compris les plus grandes universités, parce qu'aucune d'entre elles n'est complète en tout. Donc on a toujours besoin de l'expertise des autres. L'université de Kalimi n'est pas forcément une très mauvaise posture parce que nous avons déjà quelques professeurs en propre. À mon arrivée, il y a simplement 5 ans, l'UNICAL n'avait aucun professeur. Elle avait fonctionné pendant 14 ans sans aucun professeur en propre. Mais pendant 5 ans, je suis à 11 professeurs propres à l'UNICAL. Mais pour compléter cette équipe, j'ai fait recours à des professeurs visiteurs. L'année passée, on en a fait venir 58. L'année académique qui commence ici, notre objectif est d'en faire venir 80 qui viendront de l'université de Lubumbashi, de l'université officielle de Bukavu, les deux principales universités avec qui nous avons des partenariats, mais aussi d'autres établissements de l'ESU, de Kinshasa, de Kisangani et de partout.
Mais nous avons constaté que plusieurs cours sont dispensés par des assistants et chefs des travaux en lieu et place des professeurs. Cela n'est pas un handicap au sein de votre institution universitaire.
Il faut relativiser. J'ai dit ici que nous recevons près d'une soixantaine de professeurs. Si nous mettons la moyenne des 240 heures par professeur, faisons le calcul, ça fait aussi plusieurs cours qui sont dispensés par des professeurs. Qu'il y ait des assistants, des chefs de travaux qui animent des enseignements, ce n'est pas simplement le cas à l'UNICAL, même à l'UNIKIN, où il y a des milliers de professeurs, même à l'UNILU, où il y a des centaines de professeurs, des assistants dispensent des cours.
Monsieur le recteur Victor Kalunga Chikala, je vous remercie.
Merci infiniment, bonne journée à vous.
Et c'est par ici que s'achève cette édition d'information mise en onde par Pierre Diassinois, supervisée et coordonnée par Alain Rung et Jacques-Yves Molima. À la présentation, c'était Patience Ngalula Mbombo. Merci de votre attention.